Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée, Catherine Vadon, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle et docteur en océanographie. Elle vient de publier un beau livre qui présente la vie sauvage de l'océan mondial. Quel est l'esprit de cet ouvrage, Catherine ?
Le livre, il se propose de montrer un certain nombre de grands milieux de l'océan, depuis le rivage jusque dans les grandes fosses océaniques, et de montrer par grands milieux bien quelles sont les grandes adaptations qui correspondent aux conditions de vie de ces milieux, et de présenter un certain nombre d'espèces emblématiques, comme des poissons, des pieuvres, des crustacés.
C'est une image qui a fait le tour du monde, celle de l'Erika, qui sombre au large des côtes bretonnes. C'était il y a 20 ans, une photo prise par un photographe de la Marine nationale.
On est resté une demi-heure, c'est le temps qu'a mis le bateau à terminer de couler. Donc on a tourné autour, le pilote a vraiment bien géré le truc, parce qu'on est resté maximiser vraiment tous les angles de prise de vue, parce qu'on se disait bien que c'était quelque chose qu'on ne reverrait jamais, heureusement.
Il a bravé la grève des transports pour se rendre au Salon Nautique de Paris. Gwendal Jaffry, vous nous direz ce que vous en avez retenu.
Eh ben, on retiendra les foils d'une part, c'est vraiment le truc du moment, mais également l'engouement pour les bateaux à moteur.
Et nous retrouverons également dans ce magazine Alain Pichavant, le commissaire général du Salon. Tout de suite, on retrouve notre invité.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Catherine Vadon, bonjour.
Bonjour.
Des eaux littorales aux profondeurs abyssales, vous nous proposez un voyage inédit à la rencontre de la vie sauvage de l'océan. On va vraiment du krill au cachalot, hein, des toutes petites espèces de quelques millimètres jusqu'aux grands mammifères marins.
En fait, le propos du livre, c'est de montrer cette remarquable biodiversité de la vie océanique. On connaît à peu près 300 000 espèces aujourd'hui dans l'océan. Hormis les bactéries et les archées, mais il est certain que d'autres découvertes vont venir grâce à des explorations futures donc du fond des océans. C'est vrai que des espèces sont constamment découvertes lors de campagnes d'exploration, en particulier donc dans les écosystèmes des grands fonds, à l'aide de submersibles, de robots, de drones ultra perfectionnés. Si l'océan constitue un sujet d'émerveillement continuel, il est aussi soumis à des dangers multiples, considérables. Or, c'est en le connaissant davantage, en étant sensible à sa beauté, que nous aurons d'autant plus l'envie de l'aimer et de préserver ses immenses richesses, l'océan étant prometteur de beaucoup, beaucoup de découvertes dans l'avenir.
On va commencer par plonger dans les profondeurs de l'océan. On peut descendre jusqu'à 11 kilomètres, hein, c'est la profondeur maximale.
Exactement.
Des océans. On va s'intéresser peut-être aux espèces, à la biodiversité qu'on trouve dans ces profondeurs océaniques, avec des espèces vraiment étonnantes, hein, Catherine.
Alors déjà, la vie existe jusqu'à moins 11 000 mètres sous la surface. Ça, c'était pas évident en fait au niveau des premières explorations. On savait pas si la vie pouvait être présente aussi bas, elle l'est. Et on a des espèces absolument, oui, extraordinaire, des poissons en particulier, qui ressemblent absolument pas aux poissons qu'on peut trouver sur le littoral ou sur le plateau continental. En effet, on a en particulier ces poissons pêcheurs qui ressemblent un petit peu à des baudroies et qui sont très ramassés sur eux-mêmes. Ils ont très court, ils n'ont pratiquement pas de muscles. Ils ont une énorme tête avec une énorme gueule, avec des grandes dents qui dépassent à l'extérieur. Et cette grande gueule, en fait, elle est faite pour pouvoir s'emparer de toute proie qui passe, parce que la nourriture est très rare à ces grandes profondeurs et il faut pouvoir récupérer tout ce qui passe. Donc ils ont des très très grandes gueules, des grandes dents et des grands estomacs très extensibles avec lesquels ils vont mettre des mois à digérer la proie qu'ils auront trouvée.
Il faut qu'ils s'adaptent également aux pressions.
C'est un monde vraiment très particulier pour nous par rapport à nos propres besoins. On est déjà dans l'obscurité totale en permanence. On a des pressions gigantesques. On a une température qui est de l'ordre de 1 ou 2 degrés, on a un taux d'oxygène dissous qui est très bas, et il a une nourriture rare, puisqu'il n'y a pas de végétal. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à tous ces paramètres en même temps.
On trouve également des poissons qui, pour s'adapter, produisent de l'antigel ou également de la lumière.
Alors, dans la zone crépusculaire, c'est-à-dire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres, il y a encore un tout petit peu de lumière qui filtre de la surface. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, presque la totalité des organismes qui vivent là éclairent. C'est-à-dire c'est-à-dire fabriquent leur propre lumière à partir d'une réaction chimique, et ils se servent de cette lumière et bien pour un peu de tout dans leur vie, pour attirer une proie, pour repousser un prédateur, trouver un partenaire, et chaque espèce va avoir sa particularité au niveau de cette lumière, de couleurs différentes, avec des flashs différents, un petit peu, vous savez que ça fonctionne un peu comme le warning d'une voiture qui va effrayer un prédateur.
Velta.
Yes.
Your palma. My village, we have a say. How does it go again?
I don't remember.
What's that supposed to mean?
Great.
How much longer can he do that?
My brother is a world champion. Sorry.
We just met a few minutes ago.
In the lake?
No, in the hut.
Welcome to Peru.
El próximo paradero es bien el lago del demonio.
Roberto.
What?
Roberto.
What?
Roberto.
Che voglio?
Roberto.
Ma Dio santissimo, Enzo. What?
Yo palmo.
Extrait du film Le Grand Bleu avec une musique composée par Eric Serra, le choix musical de notre invité que l'on va retrouver dans un instant, juste après Gwendal Jaffry, rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu cette semaine au Salon Nautique de Paris. Qu'avez-vous retenu de cette édition 2019?
Alors forcément, ce qui marque, ce sont les fameux foils. Et ça, on peut pas y couper dès qu'on passe les portes du Nautique. Qu'est-ce qu'on trouve? Ce sont des foils sur tous les types de bateaux, ou presque. Alors, essentiellement sur des petit bateau, puisqu'il faut que le vol soit accessible, ça coûte tout de même assez cher ces engins, et puis il faut que les bateaux soient légers aussi pour voler, mais pour autant on se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça va donner, est-ce que, comme on l'entend dire, est-ce que comme certains chantiers le prétendent, tout le monde veut voler, tout le monde pourra voler. Malheureusement, j'en suis pas si sûr. J'ai eu une conversation très intéressante avec un architecte naval dont je ne peux pas citer le nom, qui expliquait que le foil c'était absolument génial pour la planche à voile ou le kitesurf, parce que précédemment, quand on faisait du kite ou de la planche, il fallait du vent et donc on allait naviguer, mais la famille pouvait pas rester sur la plage parce que justement il y avait trop de vent, c'était pas agréable. Aujourd'hui avec le foil, on peut pratiquer la planche à voile, on peut pratiquer le kite quand il y a un tout petit peu de vent, et donc ça permet à tout le monde de venir profiter de la plage. En revanche, sur les dériveurs, il n'empêche que ça va être beaucoup plus compliqué, parce que d'une part, c'est un engin qui nécessite d'avoir un bon niveau technique. Premier inconvénient, c'est un engin qui va vite, donc qui est potentiellement un peu dangereux. Deuxième inconvénient, et surtout, c'est qu'un foil, c'est très très, très encombrant. On n'arrive pas sur une cale comme ça, on n'arrive pas sur une plage comme ça, on stocke pas un bateau à foil aussi facilement. Donc voilà, moi je me pose la question, en voyant tous ces bateaux à foil, de ce que ça va donner dans le temps. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Pour autant, c'est quand même enthousiasmant de voir cet engouement pour une nouveauté, d'imaginer quelque part la plaisance de demain. Alors ce sera peut-être moins excessif que le foil, mais il y a un domaine qui est très intéressant. Alors si on continue à se promener, on retrouve des navigations plus tranquilles avec quelques bateaux du patrimoine. Et puis ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il y avait plusieurs chantiers, et notamment deux chantiers récemment repris. Pas beaucoup d'une part, un bateau qui est produit dans la région de Bénodet, un bateau très intéressant avec un ballast liquide. Et puis à côté, on avait le chantier Frangrois, lui grand producteur de bateaux, qui vient d'être racheté. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il est racheté pas par quelqu'un qui a 50, 55 ans, mais par quelqu'un qui a 25 ans et qui a décidé de se lancer dans cet univers. Donc c'est assez courageux. Et puis pour terminer un peu ce petit panorama, donc il y avait des voiliers, un peu moins que d'habitude j'ai trouvé. En revanche, les bateaux à moteur sont extrêmement bien représenté, que ce soit du semi-rigide, mais également des unités un peu plus grande. Donc là, on était plus haut dans le salon, avec des choses intéressantes qu'on voit dans les bateaux à moteur, notamment une intelligence des emménagements. J'ai vu comme ça des bateaux avec les pavois qui s'abaissent, qui permet de créer de grandes plages arrière, où on a des grands bains de soleil, de l'espace pour vivre, etc. Et donc peut-être que les foils étaient les plus intéressants du côté des voiliers. En revanche, du côté des bateaux à moteur, on voit vraiment que l'engouement pour la plaisance aujourd'hui est sur cet univers.
Merci Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec Catherine Vadon pour évoquer ce très beau livre qui s'appelle « Océan sauvage ». On a présenté quelques espèces, Catherine Vadon, de poissons. Il y en a qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on connaît beaucoup moins, comme ces poissons lanternes, télescopes, vipères ou ogres qui sont vraiment très étonnants.
Alors ça, là on est sur des formes de vie très étonnantes qui ne ressemblent, je dirais, à rien d'autre. Alors c'est des poissons qui ont en particulier portent sur leur corps des photophores, des petits organes lumineux qui leur permettent d'éclairer. Et ils font chaque nuit, chaque jour, d'immenses migrations pour trouver de la nourriture. Donc ils vont se déplacer entre 1000 mètres et 200 mètres de profondeur à chaque tombée de nuit, et au matin, ils vont redescendre dans les profondeurs pour se mettre hors de vue des prédateurs. En fait, c'est des milliers et des milliers de spécimens, de poissons, mais aussi de crevettes, de crustacés, qui migrent tous les jours, entrent sur quelques centaines de mètres de profondeur. C'est en fait la plus grande migration qui existe sur la planète.
Catherine Vadon, on a évoqué il y a quelques instants des espèces étonnantes qu'on peut trouver dans les profondeurs de l'océan ou également plus près de la surface. Il y a d'autres thèmes aussi transversaux qu'on retrouve dans votre livre, notamment le biomimétisme, c'est quoi ?
Alors le biomimétisme, c'est en fait l'étude de certaines structures vivantes ou de formes de vie ou de modes de vie qui s'avèrent être utiles en fait à l'humain. Alors parmi quelques exemples de biomimétisme, eh bien il y a la peau de requin que des fabricants de pneus utilisent contre l'aquaplaning. On a aussi des palettes d'hydroliennes qui sont fabriquées à partir de nageoires de baleines à bosse. Ou bien, plus proche de nous, je dirais, les petites baleines, vous savez, les petits crustacés en cône blanc qu'on trouve dans la zone de balancement des marées, eh bien, elles se lient au rocher par un ciment qui est très très puissant et qui est 6 fois plus résistant que la meilleure des colles synthétiques. Et vous voyez quelques exemples qui montrent à quel point on peut s'inspirer de la nature pour certains besoins humains.
Avec un autre lien, par exemple, avec l'astrobiologie.
Voilà, alors il y a effectivement un lien entre l'astrobiologie et l'océanographie, car on est en train de découvrir dans des écosystèmes profonds, liés en particulier au volcanisme, eh bien des formes extraordinaires qui arrivent à résister à des températures très élevées, de 90 degrés Celsius et même au-delà. Et ces mêmes endroits, ces mêmes lieux volcaniques pourraient être retrouvés presque à l'identique sur certaines planètes. Et qui sait si on ne découvrirait pas des formes similaires. Et donc c'est très très intéressant ce lien entre l'espace et puis le fond de l'océan.
C'est un très beau livre que vous nous proposez, Catherine Vadon, avec vos textes, mais c'est un livre qui est également très bien illustré, il faut qu'on le précise, avec de très belles photos. Hein.
magnifiques photos qui viennent de l'agence Bios Photo, spécialisée dans l'environnement, dans la nature, et c'est vrai qu'il nous permet d'illustrer vraiment magnifiquement ce texte sur les sur l'océan.
Un beau livre riche en photos et en explications sur l'océan sauvage par Catherine Vadon, qui était notre invitée dans ce magazine paru aux éditions Glénat. Merci Catherine Vadon.
Merci à vous.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
C'est un phénomène récurrent cette période de l'année, les vols d'huîtres dans les parcs ostréicoles, en plein boom d'activité des professionnels à l'approche des fêtes. C'était le cas par exemple la semaine dernière dans le golfe du Morbihan, où les ostréiculteurs collaborent depuis 10 ans avec les gendarmes. François Rivaud.
C'est un protocole de surveillance qui unit donc à l'année 110 professionnels de la RIA d'Etel et la gendarmerie. Le système est renforcé en décembre. Il s'inspire des voisins vigilants, explique Jean Maéo, le président du syndicat des ostréiculteurs de la RIA d'Etel.
Ce qu'on fait là, pour tout véhicule suspect, on prévient le référent. Et le référent communique le numéro du véhicule avec le type de véhicule. Heureusement d'ailleurs, on appelle souvent pour rien. C'est un principe de précaution et puis depuis qu'on applique ça, ça a marché plusieurs fois. Donc on continue à le faire.
Jean Maéo a été victime de deux vols il y a quelques années. À chaque fois, on lui a dérobé une centaine de poches, plus d'une tonne de marchandises. Il y a 6 ans, ajoute-t-il, le système de surveillance a permis de coincer des voleurs en flagrant délit. Il travaillait pour un ostréiculteur du Golfe qui rachetait les huîtres. Les ostréiculteurs ont trouvé aussi une autre parade. Ils permettent aux camping-cars de stationner sur les chantiers ostréicoles. Une simple activité peut décourager les personnes mal intentionnées, dit Jean Maéo.
Bienvenue à bord.
On reparle du Salon Nautique de Paris qui ferme ses portes ce week-end avec Alain Pichavant, commissaire général du Salon. Alain, bonjour.
Bonjour.
Un salon qui s'est déroulé en plein mouvement social avec la grève des transports. Est-ce que le nautique a été impacté, Alain ?
Ah ben, indéniablement, le nautique a été impacté, mais il a été impacté comme la France entière. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le premier week-end n'a pas trop souffert parce que les passionnés qui ont l'habitude de venir à la grande messe du nautique sont venus. On a plus été impacté tout au long de la semaine, hein, de lundi à jeudi assez fortement. Et puis là, on constate quand même que la fin du salon et se porte pas trop mal. Alors ça se traduit par plusieurs choses, hein. Ça se traduit par le business de la filière qui se fait convenablement puisque les pratiquants sont présents. Ce qui est un peu périphérique, les objets de décoration, les vêtements, tout ça, c'est la restauration, parce qu'on a aussi beaucoup de restauration sur le salon, a été beaucoup plus impacté que le reste du salon.
Alain, un salon qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable, j'aimerais qu'on en parle.
Ouais, c'est un point important parce que l'univers du salon, pour l'instant, a pas vraiment travaillé ces choses-là. Et dans le cas du salon nautique, notre univers de jeu, la rivière, les lacs, la mer, notre espace de liberté est quelque chose auquel le pratiquant, celui qui va sur l'eau, est très attentif. Et je pense qu'il était important que le salon marque le pas et fasse une action. Donc avec la Fédération des industries nautiques, en 2019, on s'est attaché à au moins... pour l'organisation du salon, on prend en compte ces challenges-là et on s'est donné des objectifs à l'horizon 2024-2025 que le bilan carbone du salon soit devenu positif. Alors ça se traduit dès 2019 par 35 000 m² de moquettes, 450 m³ de plastique qui vont aller dans les filières de revalorisation. Ça se traduit également par 36 tonnes de déchets qui sont produits quotidiennement sur le salon, qui sont traités. Et puis le dernier point, c'est qu'on va compenser les émissions de CO2 que le salon produit, notamment avec la consommation électrique, le chauffage, et puis l'avenue des visiteurs. Donc ça représente 24 000 tonnes de CO2 qu'on va compenser en plantant 24 000 arbres, puisque un arbre absorbe dans sa vie, en 20 ans, environ une tonne de CO2.
Merci Alain Pichavant, commissaire général du Salon Nautique de Paris. Merci Alain.
Merci à tous, bonne fin de journée.
France Bleu, bienvenue à bord.
Il y a 20 ans, le 12 décembre 1999, le navire pétrolier Erika faisait naufrage au large des côtes bretonnes, déversant plus de 30 000 tonnes de fioul dans l'océan et sur la côte atlantique. Une image forte est restée, celle de la partie arrière de l'Erika qui sombre. Une photo prise par un photographe de la Marine nationale, Stéphane Marc, et qui a fait le tour du monde. Morgan Euclin Refait l'a rencontré.
Stéphane Marc monte dans un hélicoptère avec des membres de la marine chargés de vérifier l'état des remorques. L'abeille Flandre est déjà auprès de l'Erika, mais il est trop tard. Le vol va donc être dédié aux photographes.
On est resté une demi-heure, c'est le temps qu'a mis le bateau à terminer de couler. Donc on a tourné autour, le pilote a vraiment bien géré le truc parce qu'on est resté maximiser vraiment tous les angles de prise de vue parce qu'on se disait bien que c'était quelque chose qu'on ne reverrait jamais, heureusement.
Stéphane Marc est concentré, presque figé.
On pourrait dire ça un peu comme un rêve. Bon, là pour le coup c'était un cauchemar, mais c'est complètement naturel, en fait, on n'y croit pas. C'est des dimensions tellement énormes. Avoir coulé, c'est quand même, c'est impressionnant. C'était un pétrolier, donc je savais qu'il allait y avoir une marée noire.
Il prend 180 clichés, bien moins que ce qu'on ferait aujourd'hui. C'est encore des pellicules à l'époque. Parmi eux, l'arrière de l'Erika à la verticale qui sombre dans les flots.
Quand j'ai vu cette photo-là, vraiment dans le viseur, j'espère vraiment que ce sera celle-là qui sortira. Comme c'était pas moi qui faisais la sélection, j'avais vraiment peur que ce soit un truc beaucoup moins graphique, donc déjà j'étais content d'avoir réussi la photo, et en plus que ce soit celle-là qui soit sortie.
Il n'a même pas vu les négatifs avant de les envoyer au laboratoire. Stéphane Marc a donc découvert sa photo en même temps que tout le monde à la une des journaux.
En bref, pour terminer, on l'a appris cette semaine, c'est Tahiti qui a été retenu pour accueillir les épreuves de surf pour les JO de 2024 à Paris. Biarritz, Lacanau et Osgore dans le sud-ouest et la Torche en Bretagne étaient candidats. Un choix qui doit maintenant être validé par le CIO le 8 janvier prochain. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.